Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, campusille.com et en DAB+ sur la métropole lilloise et sur l'Artois. Toujours l'émission Quoi de Neuf, comme chaque mercredi entre 16h et 18h. Et la deuxième séquence aujourd'hui consacrée à Cité Philo, édition 2023. La semaine dernière, nous avons plutôt parlé de cinéma, mais pas seulement. Hein. C'était une émission très, très intéressante, très riche avec nos invités. Et là, aujourd'hui, nous avons un autre invité qui va nous parler plutôt de la relation entre Cité Philo, la philosophie et les lycées. J'ai le plaisir donc d'accueillir Bruno Thibault. Hautevard, voilà, et qui va être interviewé aujourd'hui par Mao, ici présente. Bonjour Mao.
Bonjour.
Et puis Florian. Bonjour Florian.
Bonjour.
Voilà, donc peut-être ça vous rappelle des années lycée, la philosophie ?
Ah oui, moi j'ai fait une table, une SPL, enfin j'ai fait L au lycée, donc ça me rappelle pas mal de choses.
Oui, moi aussi, pas forcément en SPL, j'ai fait ES, mais j'ai beaucoup apprécié mes cours de philo, donc c'est toujours un agréable souvenir de pouvoir, et un bon moment pour pouvoir se replonger dedans.
Alors moi, ça fait beaucoup plus longtemps que vous, j'ai étudié la philo au lycée, beaucoup, beaucoup plus longtemps, mais j'avais adoré, franchement, j'ai fait une vraie découverte de voir qu'il y a des gens qui pensaient le monde, et sur le monde, et autour du monde, et qui amenaient des idées différentes en plus d'un philosophe à l'autre. Ça, c'était quand même assez génial.
Bon, super, on espère que tous les élèves conservent aussi ce genre de souvenirs.
Ça dépend beaucoup des profs.
Oui, alors bon, pour faire le lien avec ce qui nous occupe aujourd'hui, peut-être que ça dépend, enfin, les rencontres de Cité Philo dans les lycées font que, justement, les élèves qui, d'ordinaire en philosophie, sont confrontés, au fond, qu'à une seule figure de professeur, c'est quand même une spécificité de la matière. Là, le fait de faire intervenir des philosophes, des chercheurs, des chercheuses en philosophie dans les établissements scolaires, ça leur permet de rencontrer une autre incarnation, une autre figure associée à la discipline pendant leur scolarité.
Et vous pouvez nous expliquer le concept de Cité Philo, peut-être ?
Alors, le concept de Cité Philo, en général, c'est un festival qui a lieu, alors principalement au mois de novembre, mais qui s'étend pour de certaines rencontres jusqu'au mois d'avril de l'année suivante, qui existe depuis, c'est la 27e année, qui comporte un certain nombre de volets. Il y a une thématique chaque année. Cette année, c'est le travail. Il y a un invité d'honneur. Cette année, c'est un pays, c'est l'Ukraine. Et puis, il y a des rencontres autour de l'actualité éditoriale, donc d'auteurs et d'autrices qui ont publié récemment un ouvrage et qu'on invite pour cette raison. Et puis il y a un autre volet qui est le volet dont je m'occupe depuis peu, qui est les rencontres dans les établissements scolaires, c'est-à-dire principalement les lycées. Voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est que les rencontres de Cité Philo sont ouvertes à tous, sont gratuites. Voilà.
Les rencontres que vous organisez avec les lycéens sont spécialement faites dans les lycées. C'est particulier.
Alors, oui, ce sont des rencontres qui n'ont pas lieu en dehors des lycées. Enfin, ce sont si on consulte le programme, elles ont le même statut que les autres rencontres.
On peut y aller aussi.
Comment ?
On peut y aller aussi.
Alors, oui. Comment dire ? En théorie, oui. Normalement, elles sont ouvertes à tous les publics. Bon, cette année, étant donné l'attentat tragique qui a eu lieu le 13 octobre dernier, les conditions de sécurité ont changé. Et bon, c'est encore difficile d'avoir des informations qui vont jusqu'à avril, parce qu'il y a des rencontres dans les lycées jusqu'au mois d'avril. Mais pour l'instant, elles sont, cette année, les rencontres dans les lycées réservées aux lycéens, et bon, normalement, elles sont ouvertes à leur famille aussi. Là, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire dans quelle mesure ça ira au-delà des élèves et des professeurs du lycée.
Et c'est quoi les thématiques que vous abordez typiquement avec les lycéens ? Enfin, vous abordez des thématiques particulières ?
Alors, en fait, si on regarde, bon, cette année, il y a 13 rencontres qui vont être organisées du mois de novembre au mois d'avril. La première a eu lieu hier. Et en fait, un peu comme le reste du programme de Cité Philo, elle recoupe les différents volets. Vous allez en avoir quelques-unes qui sont liées à l'invité d'honneur, donc là, en l'occurrence, à l'Ukraine. Une rencontre à Roubaix, une autre à Compiègne, notamment, porte sur l'Ukraine. Vous avez une ou deux rencontres qui sont liées au thème, donc ici, le travail, une rencontre sur le genre et le travail, une rencontre sur le travail et politique, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, vous avez un certain nombre de rencontres qui sont liées à l'actualité politique, l'actualité éditoriale. Donc là, c'est des thèmes plus divers et qui sont un peu, comment dire, qui sont un peu en marge par rapport au programme scolaire. C'est pas, ça recoupe pas. Alors, il peut y avoir des ponts et c'est intéressant de les faire du point de vue des professeurs qui accueillent la rencontre. Mais ça, c'est aussi l'occasion d'aborder en philosophie, d'un point de vue philosophique, des sujets qui ne recoupent pas nécessairement les programmes scolaires, comme cette année le sport ou l'alimentation, par exemple, pour la rencontre qui a eu lieu hier.
Et du coup, comment ça se passe concrètement, du coup, ces rencontres? Est-ce qu'il y a plusieurs intervenants? Est-ce que ça se fait par un échange aussi avec les lycéens pour qu'ils puissent justement aborder ce thème-là? Comment ça se passe concrètement?
Alors, la structure générale est la même que celle des rencontres de Cité Philo, c'est-à-dire que ça dure 2 heures, grosso modo, avec une première heure ou heure et demie, selon les rencontres, ça peut être 1h15, qui est dévolue à l'échange entre l'invité, généralement philosophe, mais ça peut être aussi des gens de sciences ou de sciences humaines. Alors cette année, j'ai noté, il y a une ethnologue qui va venir, une économiste, donc ça s'étend un petit peu aussi à d'autres disciplines. Donc échange entre le modérateur, la modératrice, qui le plus souvent est professeur de philosophie, et cet invité, et puis un deuxième temps, donc qui va d'une demi-heure à 1 heure, pour des questions de la part des élèves adressées à l'invité sur ce qu'ils viennent d'entendre. Et là, ils ont toute liberté d'échanger par eux-mêmes avec le chercheur ou la chercheuse invitée.
Alors, Catherine Boquet va nous rejoindre, présidente de Philo Lille, donc, et avant qu'elle ne puisse s'installer tranquillement, voilà, n'hésitez pas. Peut-être une question, c'est comment on aborde avec des lycéens la philosophie d'un point de vue plutôt simple par rapport à des discussions entre, on va dire, intellectuels de haut niveau, où on est sur des registres très différents de l'expression de la pensée, de la discussion, du débat. Comment on aborde ça de façon pratique, enfin, je veux dire pragmatique, pour que les lycéens puissent aussi discuter, apporter une parole et une réflexion?
Alors, la question n'est pas facile. Je dirais qu'il y a des choses qui concernent l'enseignement de la philosophie en temps normal, indépendamment des rencontres de Cité Philo. Et là, je n'opposerai pas, alors c'est peut-être personnel, mais je n'opposerai pas la technicité et la clarté ou l'accessibilité. Parfois, c'est justement parce qu'on va être très rigoureux et très exigeant d'un point de vue philosophique que les choses vont passer plus clairement, même auprès d'un public pas forcément initié. En revanche, je dirais que dans les rencontres de Cité Philo dans les lycées, ce qui est peut-être un peu différent de ce qui se passe dans les situations d'enseignement de la philosophie au lycée en temps normal. Alors, bon, là encore, on pourrait discuter, mais moi, j'ai l'impression, en tout cas dans mes cours avec les élèves au lycée, qu'on part plutôt de textes du passé, de questions un peu transhistoriques. Voilà, on peut partir de textes de Platon, de Descartes, de Kant, pour éventuellement, par le biais d'exemples ou d'enjeux spécifiques, venir à des questions plus contemporaines ou plus actuelles. Alors qu'il me semble, dans la programmation ces dernières années, dans les rencontres en lycée de Cité Philo, que peut-être parfois c'est un peu le mouvement inverse, c'est-à-dire on part de questions qui sont tout à fait, qui peuvent être actuelles, qui peuvent être sembler rencontrer au premier abord des questionnements qui sont déjà ceux des élèves parfois. Bon, on peut penser aux rencontres sur la guerre en Ukraine dans le cadre de l'invité d'honneur de cette année, et par le biais de ces sujets actuels, on retrouve au fil de la discussion des grands textes et des questions qui sont en fait intemporelles. Donc c'est peut-être un mouvement de ce point de vue-là qui est un peu inverse.
Alors, Karine Boquet, bonjour. Donc heureux de vous accueillir donc sur Radio Campus en tant que présidente de Philo Lille, qui est l'association qui porte ce projet chaque année, Cité Philo.
Pardon, j'ai pas entendu, j'entends pas.
Je dis que depuis de nombreuses années, Philo Lille, c'est l'association qui porte le projet Cité Philo. Hein.
Oui, depuis 27 ans en fait. Donc ça remonte maintenant, on a une certaine... nous sommes adultes maintenant. Donc effectivement, c'est une association qui regroupe essentiellement des professeurs de philosophie ou des professeurs de l'université, du secondaire, qui sont donc bénévoles. Hein. Tout le monde est bénévole pour faire l'édition de Cité Philo. Et l'association n'a qu'un objet, en fait, présenter chaque année une édition de Cité Philo.
Mmh. Donc peut-être vous pourriez prendre un casque à côté, ça ira mieux.
Ouais. Voilà.
Et en principe, ça devrait fonctionner. C'est
tout... Oui, hein, voilà. Là, ça marche.
Ouais, pas de souci. Donc en fait, Cité Philo, c'est toute une organisation. Donc il y a aussi des, il y a aussi des gens qui sont peut-être intéressés par les philosophies, qui sont des jeunes, des étudiants, qui viennent épauler, organiser, accompagner. Et puis il y a tout un système aussi que je trouve passionnant. Ce sont les archives des conférences.
Oui. Alors, les bénévoles, étudiants ou non, mais essentiellement ce sont des bénévoles, nous sont indispensables. Indispensables pour tenir l'édition. On aimerait que ces étudiants bénévoles aussi, mais c'est difficile dans l'année, soient plus présents pour construire le programme, hein, avec leurs études, leur jeunesse, leurs idées. On fait un effort en ce sens, c'est compliqué parce qu'ils étudient, parce qu'ils travaillent souvent dans l'année, donc c'est vrai que le coup de main, il est plutôt ponctuel, mais nous aspirons à ce que, voilà, ils fassent vivre à l'année l'association, et puis que bientôt, quand ils seront profs ou autres, ou pas profs, eh bien, ils deviennent force de proposition pour présenter des rencontres, effectivement. Oui.
Cet intérêt pour la philosophie, enfin moi je constate auprès des étudiants qu'il y a beaucoup d'étudiants en philosophie qui rejoignent notamment les écoles de journalisme.
Oui.
C'est donc il y a une vraie préoccupation que la philosophie peut être une clé de compréhension du monde. Je sais pas, là je vais peut-être laisser parler des étudiants.
Enfin. Moi l'année dernière j'ai fait une L3 philosophie en parallèle d'une prépa journalisme. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant. À l'ESJ, vous travaillez aussi avec l'ESJ pour écrire des articles après. Pour vous, c'est aussi un moyen. Enfin, pour vous, c'était important de travailler avec l'ESJ.
Oui, c'est très important parce que là, on a effectivement un partenariat avec des enseignants et puis des étudiants. Ça permet aux étudiants de rencontrer des philosophes, parfois de les interroger, de s'exercer à écrire effectivement un article là-dessus. Et nous, c'est très intéressant d'avoir le retour de ces étudiants sur ce qu'ils retiennent de la rencontre ou ce qu'ils retiennent effectivement de ce philosophe. Parce que c'est un autre éclairage, c'est-à-dire que nous, on invite les philosophes ou les chercheurs en sciences humaines avec une certaine lecture, une certaine optique. Et finalement, ce qu'on retrouve dans les articles des étudiants, ça peut être des choses très différentes auxquelles nous n'avions pas pensé, mais il y a un point de rencontre. Et donc, qui fait penser autrement ces jeunes futurs journalistes. Et pour nous, c'est un retour très intéressant, en fait, très enrichissant. Mmh.
Donc, est-ce que la philosophie... Alors là, je parlais justement des gens qui s'orientent vers le journalisme, est-ce que c'est suffisamment pratique pour que des journalistes, en plus de ces notions de réflexion sur le monde, puissent aborder le monde de manière concrète ?
C'est leur donner, en fait, enfin, leur donner des outils pour penser, effectivement. Et je vois, par exemple, en prépa littéraire aussi, il y a beaucoup de jeunes qui passent par là parce qu'ils veulent se former à la rédaction, mais aussi se former à la réflexion pour justement s'emparer des faits qui sont présents, avoir un certain recul. Et encore une fois, Cité Philo, c'est la philosophie, mais c'est aussi les sciences humaines, donc l'histoire. Enfin, il y a une multiplicité d'éclairages. Et l'idée, effectivement, c'est d'amener chacun à pouvoir avoir des outils pour penser par lui-même ce qu'il veut penser. Donc, c'est une formation qui est intéressante, effectivement.
Donc, des outils pour penser et des outils pour s'exprimer aussi. On peut parler peut-être de l'art oratoire dans la philosophie, notamment dans les rencontres.
L'art oratoire, c'est-à-dire, vous voulez dire du...
Je veux dire qu'une fois qu'on a intégré des outils intellectuels, de connaissances, mais aussi de capacité d'expression, est-ce que ça facilite l'entrée dans le monde de l'oralité ?
Alors, Spontanément, je dirais oui, mais pas forcément en cherchant l'oralité, l'éloquence pour elle-même. Mais disons qu'il y a un certain nombre de compétences, si l'on peut dire, qu'on travaille en philosophie, le sens de l'argumentation, de la rigueur dans l'approche des concepts, le sens du problème, enfin, toutes ces choses-là. Elles n'ont pas pour finalité première d'être plus éloquent ou voilà, la philosophie n'est pas la rhétorique. En revanche, quand on maîtrise ces outils et qu'on prend la parole, ensuite, oui, il y a une autorité du discours rationnel. Ça renvoie à des vieilles questions en philosophie qui sont déjà chez Platon. Donc oui, pratiquer la philosophie peut faciliter la prise de parole à l'oral et la rendre plus convaincante. Et je pense que ça peut être aussi un motif de l'attrait des jeunes générations pour la philosophie. Mais ça suppose un détour nécessaire, indispensable, par ce travail de la rationalité que j'évoquais en parlant d'argumentation, de concept.
Est-ce que dans les philosophes anciens, on va dire les premiers, les précurseurs, ils avaient un art, justement, d'amener leurs idées devant un public, un art oratoire, d'une certaine manière, qui leur permettait de faire école?
Grande question, René.
C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y avait un enseignement qui était avant tout oral. Et dans l'Antiquité, les livres étaient faits pour être lus, hein, pas pour être, pour être lus en public et discutés. C'était pas du tout comme nous, face à face avec un livre, et puis pour le méditer, tourner les pages seul. C'était vraiment des lectures, c'était destiné à une lecture publique. Et évidemment, les grandes écoles de l'Antiquité, on avait des disciples, des élèves, et puis on dispensait la parole, il y avait des écrits pour un public large, des paroles ou des écrits pour les étudiants, les élèves, donc plus techniques. C'est vrai que maintenant, le sens du livre a changé à ce niveau-là. Et il est vrai qu'en terminale, même si dans la classe ou en première maintenant, on amène de plus en plus. Il n'y a plus de cours magistral maintenant, c'est-à-dire que vraiment il y a un échange, mais c'est quand même le professeur qui conduit la classe et qui pose des questions, même s'il peut être interrompu bien sûr par une question d'élève, mais ça reste quand même effectivement la parole dans l'enseignement, la parole de l'élève, quelque chose de plus réduit. C'est le professeur quand même qui a la parole, d'où aussi l'intérêt, Thibault en parlait tout à l'heure, de ces rencontres dans les lycées, parce que là, ils ne rencontrent pas un professeur, ils rencontrent un philosophe. C'est pas pareil, un professeur de terminale, c'est pas un philosophe. Hein. Et donc, ils rencontrent un philosophe ou un chercheur en chair et en os, et ils peuvent poser vraiment toutes les questions librement. L'invité qui est là, c'est lui qui a écrit le livre, donc on peut lui poser des colles, mais en même temps on a des réponses véritablement en première personne, et ça je pense que c'est décisif pour les élèves, c'est qu'ils ont vraiment un auteur devant eux, et ils sont un peu affranchis du rapport prof-élève.
Donc si je comprends bien, dans l'enseignement de la philosophie, il y a une partie sur l'historique, la mémoire de la philosophie, les grands auteurs, il y a une partie aussi réflexion, peut-être actualisation de cette réflexion sur des problèmes concrets. Évidemment, Cité Philo, avec ce thème du travail ou d'autres, amène une réflexion sur une base que certains, même des élèves, peuvent déjà avoir en tête.
Oui, tout à fait. Pour prendre l'exemple du travail, où va le travail, c'est le thème de Cité Philo cette année. Le travail, c'est une notion au programme de terminale générale, dans le programme qui est entré en vigueur en 2019, si je ne dis pas de bêtises. C'était déjà une notion couplée à celle de technique dans l'ancien programme. Donc c'est une notion que les élèves, pour des raisons d'impératif scolaire, qui doivent avoir travaillé dans l'année. Mais je dirais que peut-être, l'apport des rencontres de Cité Philo dans les lycées, c'est que même si elles croisent, on peut penser aussi à la question de l'histoire et de la violence dans les programmes de spécialité, avec l'invité d'honneur cette année qui est l'Ukraine, elles croisent ces programmes scolaires, et en même temps elles permettent un rapport un petit peu détaché pendant un temps, en tout cas le temps de la rencontre, des impératifs scolaires, des notes, des évaluations, de la perspective du bac, pour une matière que beaucoup d'élèves ne rencontrent que pendant un an. C'est quand même assez précieux d'avoir des moments disons, un peu plus gratuit, où la perspective de l'urgence, des notes, de l'examen, des devoirs est un petit peu mise de côté pendant le temps de la rencontre.
Alors, est-ce qu'on sent au fil des rencontres, hein, dans les lycées, une évolution de ces élèves vers plus de maturité et peut-être plus de liberté quant à leur capacité à s'exprimer ?
On n'a pas fait vraiment d'évaluation. En tout cas, on remarque que, alors c'est un élément d'explication parmi d'autres, hein, mais que les professeurs qui accueillent Cité Philo dans leur classe, dans leur lycée, sont des professeurs qui le font extrêmement régulièrement. Donc c'est-à-dire qu'ils voient bien que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau et que ça apporte vraiment quelque chose concrètement dans leur enseignement. D'abord, ça part... On parlait des bénévoles tout à l'heure, membres de l'association. Chaque rencontre part en fait d'un désir porté par quelqu'un. Rien n'est imposé, donc le programme est à l'image des gens qui composent l'association, qui sont force de proposition, et donc on a envie d'inviter quelqu'un. Les professeurs ont envie d'inviter quelqu'un dans leur lycée parce que ce qu'ils ont lu les intéresse et qu'ils ont envie de le faire partager. Donc si on a une fidélité comme ça depuis des années et des années. Alors on a des nouveaux, hein, des nouveaux profs qui intègrent évidemment, et on en veut de plus en plus, on en désirait en tout cas de plus en plus, c'est ouvert, hein, si les collègues entendent, bien sûr. Mais ça montre qu'effectivement, pour eux, c'est un moment important à offrir à leurs élèves et à leurs élèves, et qu'il y a sans doute effectivement des retombées d'une manière ou d'une autre positives. Ce sont en fait des rencontres, véritablement ce sont des rencontres, et ces rencontres-là avec un auteur ne peut pas laisser indifférent des élèves qui s'intéressent un peu à la philosophie en tout cas.
Non, on a dit tout à l'heure que cette année c'était un peu particulier avec les attentats, etc., qu'on ne pouvait pas faire venir de gens extérieurs dans les lycées, ce qu'on peut vraiment comprendre. Est-ce que pour le coup on ne pourrait pas imaginer qu'en plus des élèves et de leurs professeurs de philo, on ne puisse pas intégrer dans ces lycées d'autres professeurs du lycée pour partager en tant que communauté l'esprit autour de la philosophie?
Alors, je veux pas dire de bêtises parce que je suis pas dans l'organisation de Cité Philo depuis très longtemps, mais je pense qu'il y a déjà eu des rencontres qui étaient prises en charge en tout ou partie par des professeurs qui n'étaient pas de philosophie. Je crois pas dire une bêtise qu'il y a parfois eu des rencontres impliquant aussi des professeurs d'histoire. Alors, cette année, je crois que parmi les modérateurs et modératrices, il y a que des professeurs de philosophie, mais je crois qu'il y a certaines rencontres pour l'organisation desquelles, alors, ça se voit pas forcément lors de la rencontre, mais il y a eu des professeurs d'histoire-géographie impliqués, également des professeurs documentalistes.
Mmh. Ouais, et puis aussi, par exemple, quand il y a des invités qui sont plutôt du côté de la philosophie des sciences. Mmh. Il y a un partenariat avec les professeurs ou de physique ou de mathématiques. Et en plus, suivant la jauge, ça c'est un peu suivant les lycées, mais suivant la jauge disponible, on n'a pas forcément une classe ou deux face à l'invité, mais on a aussi la possibilité, en général dans les lycées c'est autorisé, tous les élèves qui souhaitent participer à ces rencontres, même si elles ne sont pas organisées par leurs professeurs de philosophie, peuvent effectivement se rendre sous autorisation, bien sûr, à ces rencontres. Donc ça reste quand même quelque chose, c'est pas entièrement transversal, mais au coup par coup, ça peut l'être, et c'est là où c'est peut-être aussi très intéressant.
Non, on l'a dit tout à l'heure, Cité Philo, c'est à la fois des rencontres, mais aussi la mémoire de ces rencontres, notamment avec la diffusion sur la plateforme de citéphilo.org. des rencontres, donc alors ça peut être du son, ça peut être des vidéos, et l'ensemble est très riche, enfin, c'est foisonnant. Est-ce que vous gardez toutes les éditions en mémoire?
Alors on a un projet, alors toutes les éditions, quand on a commencé, je disais, ça fait la 27e édition, donc on a plein de rencontres, on a un petit trésor, hein. On a des cassettes, et donc, alors pas tout, hein, au départ pas tout, mais on en a quelques-unes à l'époque qui avaient été jugées les plus importantes, voilà, donc on a des cassettes, et on a un projet pour les années qui viennent, mais c'est un lourd travail, c'est de pouvoir les traiter en fait, hein, et les mettre en ligne. Mais là, on a des dizaines et des dizaines de cassettes. Donc je parle des années, fin des années 90, début des années 2000. On a aussi perdu, en changeant d'hébergeur de site internet, des rencontres qu'on a réussi pour certaines à récupérer. Donc là, on a déjà des archives assez riches depuis quelques années, mais ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir enrichir hein, ces archives, parce qu'on a de vrais petits trésors, et c'est dommage parce qu'ils dorment, mais c'est un vrai travail, ça demande des professionnels, ça demande un budget, voilà, on y pense, on y travaille, mais on n'a pas encore pu s'en occuper. Mais c'est vrai que c'est une mémoire vive et c'est d'une grande richesse, vous imaginez, une centaine de rencontres par an depuis 27 ans avec des gens qui sont aujourd'hui disparus, qui sont venus présenter leurs livres, enfin vraiment même parfois nous sommes contactés par des doctorants, par des chercheurs qui ont vu que tel invité était intervenu telle année, qui nous demandent effectivement si on a gardé la trace de ces archives, donc on voudrait déjà les répertorier et dans un second temps, effectivement, les mettre en ligne.
Alors, c'est vrai que nous, en tant que radio, on aime tout, hein, dont la philosophie, bien sûr. Par contre, diffuser des conférences dans leur intégralité, c'est compliqué, parce que ce n'est pas la même relation au public qu'un public qui écoute la radio. Est-ce que vous aussi, vous avez ce problème de transcription de l'oral, ou de l'oralité, ou même de la vidéo, hein, de l'image, à l'écrit, si on veut en garder des traces écrites qui soient la traduction de ce qui a été dit pour en faire une matière consultable, peut-être d'une autre manière, et puis exploitable.
C'est-à-dire que les rencontres, les mettre par écrit, ça on n'a pas du tout on a eu ce projet-là il y a quelques années. On avait été contacté par une petite maison d'édition qui souhaitait chaque année peut-être prendre deux ou trois rencontres et puis en faire un livret. Ça n'avait pas abouti. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que la force de Cité Philo, c'est de mettre en présence un auteur, un présentateur, un modérateur et puis un public. Donc justement, ce ne sont pas des conférences. Donc ça n'a pas vocation à être mis à l'écrit. Puis ça aurait aussi une difficulté, c'est ce qu'un auteur dit à un moment. Il devrait le relire, il devrait le recontrôler. Il y a aussi des droits. Donc en fait, ce projet a été abandonné. Alors, on met en archive, alors c'est pas, quand vous allez sur le site, c'est pas très sexy, hein. Vous avez du son, alors vous pouvez écouter dans votre bain, vous avez une image, pas d'une qualité forcément exceptionnelle. Donc, on met en ligne, dans la mesure du possible, enfin, pratiquement toutes les rencontres depuis quelques années. On les a quelquefois 3 jours avant, quelquefois 15 jours après, mais on peut les avoir très vite. Mais rien ne remplace le fait de venir... Hein, d'assister et de pouvoir éventuellement, puisque la parole elle passe, hein, comme le rappelait Thibault, que ce soit dans les lycées ou lors des rencontres pour le reste de l'édition. Donc c'est vrai que c'est pas la même chose de venir écouter quelqu'un en direct que de le repasser après. Mais c'est une difficulté, c'est sûr que les gens, c'est rare que les gens mettent une conférence et l'écoutent du début à la fin, c'est clair.
Alors, c'est vrai que ça peut rejoindre des problématiques de spectacle vivant. C'est quoi le spectacle vivant? C'est quoi le spectacle enregistré? C'est quoi la production prévue pour l'enregistrement et pas une captation qui est faite de quelque chose qui est prêt pour être présenté à un public? Toute cette question de la médiation, en fait, des contenus, c'est un vrai enjeu aussi pour faire connaître les différents sujets que vous abordez.
Oui, c'est un vrai enjeu. Après, on n'est pas entièrement satisfait de... À la fois, c'est une grande richesse, ces archives, et en même temps, la façon dont c'est sur le site, c'est forcément insatisfaisant. Là où notre effort va porter, c'est plutôt dans la préparation en amont des rencontres. C'est-à-dire que la personne qui va présenter l'invité, qui a choisi un invité, l'invité a accepté, il y a tout un travail de préparation en amont, d'échange, dans les mois qui précèdent la rencontre, pour que les choses soient le plus fluides possible pour le public et adaptées à un public très large. Je dirais que notre effort, il se porte surtout là, en fait, dans la construction de la rencontre.
Alors, sur ces rencontres, justement, enfin, je pense que c'est le cas pour toutes les rencontres, elles sont modérées par un philosophe, pas par un journaliste. Est-ce que vous faites une différence?
Oui, c'est important. C'est-à-dire que, alors par un philosophe, pas forcément, mais par un professeur de philosophie ou un professeur d'histoire ou un professeur d'université, ça peut être aussi un professeur de mathématiques pour une rencontre sur la philosophie des sciences. Mais en tout cas, c'est toujours présenté par quelqu'un qui est quand même spécialiste, entre guillemets, de la question, quelqu'un qui n'a pas lu un seul livre, qui en a lu plusieurs. Et ça, c'est très important parce que pour rentrer vraiment dans la substantifique moelle, je dirais, de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'il fait une présentation courte hein, de l'auteur à partir de sa propre lecture informée de l'ouvrage et des écrits de l'auteur. Et je pense que puisque ce sont des enseignants, ils ont justement une aptitude particulière à amener le public à la rencontre de l'auteur et à entrer dans la lecture de l'ouvrage. C'est-à-dire que, alors c'est peut-être une vision totalement fausse, mais le journaliste va effectivement peut-être faire rentrer dans une présentation, une espèce de présentation de l'ouvrage. Là, on va rentrer peut-être davantage dans des problèmes concrets de type, par exemple, forcément philosophique, donc des problèmes un petit peu plus techniques, problèmes que ne relèverait sans doute pas un journaliste, en fait.
Alors, quand vous organisez donc des rencontres sur des sujets vraiment pointus, hein, là, sur le travail, il y en a beaucoup, hein, est-ce que vous conseillez avant au public de se documenter ou après, à la sortie, de poursuivre avec la lecture d'un certain nombre d'ouvrages?
Notre idée, c'est bien sûr de favoriser la lecture. On est d'ailleurs subventionné notamment par le CNL, le Centre National du Livre. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser la lecture. Alors, il faut savoir que depuis plusieurs années, nous avons une librairie éphémère à l'entrée, par exemple, de chaque rencontre, avec les livres, le livre, souvent les livres, plusieurs livres de l'auteur. Hein, nous travaillons avec des libraires. Les libraires indépendants choisissent leurs rencontres, pensent la bibliographie, commandent les livres. Nous, nous les mettons en vente pour elles. Et à l'issue de la rencontre, cette librairie se déplace aussi. Et donc, puisque les gens entrent par une porte, sortent par une autre, la librairie est à l'entrée et à la sortie. Et effectivement, on voit beaucoup de gens qui achètent, enfin beaucoup. Elle marche bien, cette librairie. Les gens achètent à l'issue de la rencontre parce que l'auteur leur a donné envie de lire. Et nous, quand on vend des livres pour les libraires, on est bien sûr extrêmement content parce que ça veut dire que la rencontre a donné envie. Et c'est ça le but. Moi, je ne pense pas qu'il faille venir en ayant lu un ouvrage ou en s'étant. Il faut venir de manière... voilà, on a envie d'entendre quelque chose sur ce thème. Eh bien, on vient écouter et puis on en fait quelque chose, une suite ou pas d'ailleurs. Hein, ou pas.
Alors, c'est vrai que la place de la lecture, on tend un petit peu à mélanger. Il y a plein d'ouvrages qui sortent, mais dans les ouvrages, il n'y a pas que de la philo. Il y a des recettes de cuisine, il y a des bandes dessinées, etc. À un moment donné, est-ce qu'on est dans une société, dans une civilisation, en capacité de maintenir un état de lecture, mais au travers de la lecture, de connaissances peut-être et de réflexions, ou est-ce que ça a tendance un peu à se dégrader et qu'est-ce qu'on peut y faire?
Ouais, franchement, je n'ai pas de données sur la dégradation du niveau de lecture. Enfin, je constate quand même qu'en France, il y a énormément d'ouvrages qui sortent. Après, la philosophie et la BD ou la cuisine, c'est pas... antinomique. On a déjà fait des rencontres sur la bande dessinée, on fait des rencontres sur le rugby, sur le foot, sur la marche, enfin sur un tas de choses. Justement, la philosophie a cette prétention de quand même penser à peu près tout. Donc je pense que voilà, il y a un moment pour tout et que de toute façon, nos auteurs invités ne lisent pas que de la philosophie ou des sciences humaines, qu'ils doivent aussi lire de la BD, de la poésie, etc. Moi, j'ai l'impression que quand même... C'est vraiment une opinion, mais que la lecture se porte quand même assez bien. Et je dirais que pour le jeune public, notamment, finalement, un peu importe ce que les jeunes lisent, du moment qu'ils lisent. Et finalement, les choses s'affinent en leur temps. On a tous commencé, les plus jeunes, on peut commencer par des mangas, continuer à lire des mangas à 50 ans et lire autre chose aussi. Donc je pense qu'on a une belle offre de livres, et d'ailleurs c'est une difficulté pour la partie actualité éditoriale de Philolille, hein, c'est de sélectionner dans l'année courante des ouvrages que nous allons privilégier dans notre programmation, parce qu'il y a un foisonnement d'ouvrages qui sortent qui sont très intéressants et la sélection est difficile.
Donc sur un thème comme le travail, on trouve beaucoup de matière écrite.
Alors, on en trouve, oui. Puis en plus, bon, là, ça tombe comme ça, mais il y a vraiment, évidemment, vous l'avez remarqué, un écho avec l'actualité. Enfin, en tout cas, l'an dernier, mais c'est pas fini, tout ce qui était réforme des retraites, etc., où il a beaucoup été, justement, dit que, finalement, on pensait la retraite et que ça ne s'accompagnait pas d'une réflexion sur le sens du travail, hein, finalement, qu'est-ce que c'est que travailler, quel sens ça, et c'est ça qu'on a voulu effectivement mettre en lumière.
Alors, est-ce que quand vous créez un thème comme ça, qui est important, c'est un thème, bien sûr, en France qui a son environnement, mais dans le monde entier, le travail a des formes très différentes d'un pays à l'autre, on va dire, avec des règles différentes, avec des conditions de travail très différentes. Est-ce que tout ça aussi, c'est quelque chose qui vous intéresse ?
Mais c'est quelque chose, je pense... alors moi, je ne me suis pas occupée du tout de ce thème, mais c'est quelque chose qui, effectivement, quand on pense le sens du travail dans nos démocraties actuellement, avec, effectivement, bien sûr, en arrière-fond, la question de la retraite, c'est aussi, finalement, quel rapport l'homme peut avoir au travail. Et donc, à partir de là, ça demande aussi d'interroger d'autres modèles et d'autres façons de faire et de voir les choses, effectivement, pas simplement à l'échelle de l'Europe, hein, mais effectivement, l'exploitation, c'est pas quelque chose qui est laissé de côté, c'est quelque chose qu'on interroge aussi, par exemple, depuis longtemps à Cité Philo. On a déjà aussi des rencontres sur le harcèlement au travail, etc. Donc voilà, il y a vraiment une richesse du thème, même si on a une dizaine de rencontres et qu'effectivement, on ne peut pas traiter de tout.
Voilà, donc la semaine prochaine, on va revenir à de l'actualité de Cité Philo qui dure, là on va dire, là on est sur la période pré-hivernale, mais après il y aura encore jusqu'au mois d'avril des événements, etc. Donc on reste concentré sur ces trois émissions, sur l'actualité, on va dire, de cette première phase. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller comme rendez-vous à venir, là, les proches, on va dire, de cette date d'aujourd'hui?
Par exemple, samedi, je pensais, samedi, nous avons une rencontre sur le travail qui est au Palais des Beaux-Arts, je crois, et donc qui est effectivement une rencontre avec donc un sociologue. Et vendredi après-midi, j'essaye de la retrouver pour vous donner l'horaire, mais vendredi soir, nous avons la conférence inaugurale par Dominique Méda.
Donc peut-être là, on pourrait donner un avant-goût de ce que ça pourrait être, cette rencontre avec...
Avec Dominique Méda. Alors là, c'est une rencontre qui est toujours particulière, la leçon inaugurale, parce que comme son nom l'indique, c'est une leçon. C'est-à-dire que dans les rencontres de Cité Philo, il y a un échange avec le présentateur, le modérateur, alors que là, en fait, Dominique Méda, que je ne présente pas parce qu'on l'a... On l'entend beaucoup, on la voit beaucoup, puisque effectivement, elle est spécialiste de ces questions du travail. Là, elle a carte blanche pour nous donner sa version de notre thème. C'est-à-dire qu'on l'invite en lui donnant carte blanche sur ce qu'elle a à dire, sur notre thème, où va le travail. Donc c'est vraiment une conférence, c'est différent des autres rencontres. Et donc, on va l'écouter pendant environ trois quarts d'heure, une heure. Et ensuite, par contre, nous ne dérogeons pas la tradition, il y a des rencontres, enfin il y a des questions du public, un échange avec le public. Donc là, ça va être vraiment le lancement du thème et c'est un moment très important.
Voilà, bien, on vous remercie de votre participation. On souhaite bon vent à Cité Philo 2023.
Merci beaucoup.
Et puis, n'hésitez pas, la semaine prochaine, on en reparle dans cette émission à partir de 17h hein, sur Radio Campus. Et puis, par la suite, n'hésitez pas, si vous avez des gens qui vous ont passionné, qui ont envie de venir exprimer leurs idées à travers d'un micro qui est ici à Radio Campus, ils seront les bienvenus.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Très bonne journée.
Merci.